en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Démocratie et éducation, tel était le titre de la communication que le recteur Gérald Antoine a prononcé le lundi 17 mai 2010 devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance. Cette communication s'inscrit dans la série thématique choisie par le président Jean Ménard pour l'année 2010, la démocratie. Écoutez maintenant le grammairien Gérald Antoine.
La démocratie. Oh ben, lundi après lundi, je dirais que nous sommes comblés de définitions de la démocratie, soit considérée en elle-même, soit considérée par rapport à d'autres. Aujourd'hui, étant donné mon origine de grammairien, je n'irai pas plus loin que le sens étymologique du mot. Qu'est-ce qu'une démocratie ? C'est un type d'organisation politique où le pouvoir est confié au peuple, soit directement, soit par délégation. C'est dire que c'est le type de société où l'éducation a le besoin et le devoir d'être le plus largement partagé. Quant à l'éducation, le sujet est immense et étant donné le peu de temps qui m'est imparti, je suis bien obligé de choisir. Or, j'ai choisi d'abord l'état actuel de la démocratie française, de l'éducation de la démocratie française, et je me suis bordé à deux angles de vue majeurs, il est vrai. J'essaierai de vous parler des contenus actuel et souhaitable de l'éducation dans une démocratie comme la nôtre. Et je vous parlerai des destinataires de cette éducation dans la démocratie. Alors d'abord les contenus. Alors depuis des années, une chose qui me frappe en France, c'est le privilège accordé aux vertus de l'esprit et surtout à ces vertus les plus abstraites, d'où il découle, je dirais, un culte des mathématiques et aussi, je repense égoïstement à mon domaine, aux théories de la grammaire. Or là, la difficulté confine au scandale. On s'empresse d'enseigner la grammaire sous ses aspects les plus théoriques, les moins appliqués au texte, à la vérité des textes, dans l'enseignement du premier degré et dans le premier cycle du second degré, c'est-à-dire à un âge où les élèves n'y comprennent à peu près rien. Enfin, la majeure part des élèves n'y comprennent à peu près rien. C'est ahurissant. Alors que si l'on enseignait la grammaire de façon vivante, si possible, au second cycle du second degré, alors les élèves devenus plus âgés s'y intéresseraient et même, je vous assure, se passionneraient. Enfin, ainsi est la situation. Alors, ce qui découle de là, c'est que l'éducation, encore une fois dans la démocratie française actuelle, est très partielle, alors que je le disais à l'instant, le propre même d'une démocratie, c'est d'être un État où tout le monde, à la limite, doit être enseigné, éduqué. Et le premier exemple, le premier méfait de cette situation, il se situe dans l'ordre de la formation professionnelle, ou plutôt de l'absence de formation professionnelle. Nous formons des élèves et des étudiants de façon telle que nous les lâchons dans la vie, sans les avoir réellement préparés aux réalités de la vie, sans les avoir éduqués comme citoyens, comme hommes adultes. Or, j'en prendrai quelques exemples. Je prendrai d'abord l'absence d'éducation, or c'est le comble, des formateurs. D'accord. Quels sont les formateurs ? D'abord les parents, et ensuite et en même temps, les professeurs, disons. Alors, l'école des parents. Là, j'oserais vous dire, vous confier une aventure ou une mésaventure personnelle. Il y a hélas bien des années, je commençais ma carrière, je venais d'être nommé au lycée de Vendôme, au lycée Ronsard, charmant établissement d'ailleurs, et naturellement, mes choix, le devoir de prononcer le discours de distribution des prix. On me laisse la liberté du thème, et je me dis dans ma candeur de tout jeune professeur, « Ah ben mon Dieu, c'est l'occasion ou jamais de rencontrer les parents. » Et donc, je vais leur dire leur devoir, leur parler de leur devoir. Bref, je vais parler de l'école des parents. Et j'avais donné ce titre à mon exposé. Bien mal m'en prit le président de la séance, qui n'était autre que le directeur général des enseignements du second degré de l'époque, lui-même ancien professeur au lycée de Vendôme, s'est déclaré furieux de ce choix. Il a estimé que c'était une offense faite à la dignité des parents, que vraiment choisir un tel sujet, c'était faire preuve d'un manque d'éducation totale, et m'a menacé d'un déplacement d'office, figurez-vous. Je dois à l'intervention d'un inspecteur général qui allait devenir un membre éminent de cette compagnie, je veux dire Pierre Clarac, l'inspecteur général Pierre Clarac, il préparait à ce moment-là, en ma compagnie, un livre. Il est intervenu avec véhémence, avec beaucoup de gentillesse, et j'ai gardé mon poste. Bref, l'école des parents, en cette époque, avait la plus mauvaise presse. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé en théorie. On admet que les parents devraient recevoir une éducation, mais rien, à ma connaissance, ou pas grand-chose, officiellement du moins, n'est fait pour assurer cette éducation des parents. J'en viens maintenant aux professeurs. Alors, dussé-je vous faire sursauter, mes chers confrères, mais les professeurs, quelle que soit la discipline considérée, ne reçoivent aucune formation professionnelle. Vous me direz, allons, vous oubliez le CAPES, vous oubliez l'agrégation. Mais non, je ne les oublie pas. Mais ce ne sont absolument pas des exercices de formation professionnelle. Ce sont des exercices destinés à améliorer le niveau des connaissances dans une discipline donnée, mais ça ne répond absolument pas aux besoins qu'ont les professeurs de se trouver un jour devant des élèves et devant le devoir de les intéresser, de les passionner si c'est possible. C'est vraiment une situation extraordinaire. Mais j'ai gardé pour la fin ce qui, à mes yeux, est le plus grave et le plus important. Notre éducation nationale, non seulement ne se soucie que des élèves et des étudiants, et pas du tout du reste de la nation, mais parmi ces élèves et ces étudiants, elle néglige un nombre considérable et de loin d'entre eux, je veux dire tous ceux qui ont une vocation, comme on dit, technique ou professionnelle, soyons plus clairs, tous ceux, toutes celles et tous ceux qui sont destinés à exercer un métier réputé manuel. L'éducation nationale se comporte à leur égard avec une espèce de condescendance, j'allais presque dire de mépris, c'est absolument désolant. Notre démocratie française actuelle se glorifie, je me rappelle le mot de Louis Cross, qui à partir du moment où on a créé le collège unique, a parlé d'explosion scolaire. Explosion scolaire quantitative, oui certes, mais qualitative absolument pas. Mon sujet, cher Président, est d'une actualité brûlante, puisque la troisième chambre de la Cour des comptes vient de publier un rapport extrêmement intéressant sur le sujet que vous m'avez fait l'honneur de me donner. Et ce rapport, dont je me permets de vous recommander la lecture, est tout à fait captivant. En un mot, il revient à mettre en accusation la fausse conception de l'égalité, la sacro-sainte, le rapport dit, la sacro-sainte égalité républicaine dont se rend coupable l'éducation nationale. Au nom de cette sacro-sainte égalité, on a créé le collège unique, où l'on a, j'allais dire, fourré tout le monde. C'est absurde, car cela a engendré la pire des inégalités des chances, étant donné qu'on a négligé le fait de mettre tout le monde dans le même moule éducatif ou semi-éducatif, revient à désorienter tous ceux que la nature n'a pas fait pour recevoir ce type de formation. Au lieu d'un collège unique, il fallait au contraire envisager une grande diversité de filières, et pour arriver à obtenir cela, qu'est-ce qu'il faut? Il en faut des conditions. Je dirais d'abord, il faut restaurer, à l'issue du premier cycle du second degré, un véritable palier d'orientation. Je ne dis certes pas de sélection, attention. Un véritable palier d'orientation, selon les goûts et les aptitudes de chacune et de chacun, chacun recevant droit ou devoir d'aller dans la filière qui lui est indiquée par ses aptitudes. Cela implique une égalité entre les filières, une respectabilité de ces filières, qu'elles soient dominantes, de dominantes scientifiques, de dominantes littéraires ou de dominantes techniques. Il faut une égalité des rémunérations des maîtres. Et je dirais, je me rappelle, nous nous rappelons le mot de Rimbaud, la matière est rugueuse à étreindre, plus rugueuse que les concepts. J'envisagerais une prime particulière attribué au maître du technique, puisqu'aussi bien c'est à la matière qu'il s'adresse et à ceux qui sont appelés à manier la matière. Nous sommes loin de compte, cher confrère. J'ajouterai quelque chose. Il existe des lycées professionnels. Il existe aussi des conseils, des comités d'apprentissage. Mais y êtes-vous jamais allé voir ? Le plus inquiétant, c'est que si j'étais devant un auditoire de recteurs, j'oserais à peine leur poser la même question. Je parlais d'éducation professionnelle et je parlais de comités d'apprentissage. Ces comités d'apprentissage sont placés sous la houlette conjointe de l'éducation nationale et de l'emploi. C'est excellent, au moins en théorie. Et du reste, le dirais-je en parenthèse, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que l'ensemble de nos filières d'éducation soient placées sous cette filière conjointe de l'éducation nationale et de l'emploi? Ça serait probablement un gage d'ouverture de notre système d'éducation aux réalités pratiques de ce monde. J'ajouterais d'ailleurs, il ne s'agit pas seulement d'une tutelle conjointe de l'éducation nationale et de l'emploi qui est souhaitable. Il s'agirait d'une triple tutelle, éducation nationale, emploi et médias. Alors là, nous aurions une garantie d'ouverture et d'actualisation de notre système d'éducation. Nous sommes loin de tout cela, mes chers confrères. Que faire ? Ben, le dire déjà, dans une enceinte comme celle-ci, vous priez de le dire au dehors, de façon que notre pauvre éducation nationale sorte du ghetto dans lequel elle s'est retirée, qu'elle s'est fait, et que notre éducation soit conforme à l'idéal de la démocratie, c'est-à-dire à l'idéal de la vie. L'un de vous, l'un des moindres, me disait l'autre jour, « Ah, mais au fond, votre sujet, démocratie, éducation, c'est une tautologie, car c'est la même chose, l'éducation et la démocratie. » Rien de plus vrai, mais comme nous sommes loin de cette vérité-là. Mes chers confrères, merci de votre attention.
Sur le thème de la démocratie, vous venez d'entendre Gérald Antoine, mais vous pouvez aussi écouter sur Canal Académie d'autres académiciens sur ce même thème, François Théré, Renaud Denoît de Saint-Marc, Bertrand Collomb, Jean Béchler et quelques autres intervenants. Il suffit de taper sur la page d'accueil du site de Canal Académie, dans le moteur de recherche, le mot « démocratie ».